Donc bonjour à vous deux.
Bonjour.
Salut.
En direct de Radio Éphémère, tout ce qui point multiple, etc. À chaque fois, ça changera de titre, des nouvelles personnes. Donc d'abord, je vais vous laisser vous présenter.
Bonjour, moi c'est David. Je fais partie de Rocheval. Oui, Roche-Oval.
Roche-Oval, d'accord.
Ouais, et moi, c'est Étienne, autre membre de Roche-Oval, deuxième membre, en fait, du duo, si on veut.
Parce que... Oui, c'est plus un duo autour de...
En fait, c'est un duo, on est un duo, mais en même temps, le but, c'est de pouvoir inviter autant de gens qu'on veut, pas se limiter dans aucune forme, et puis avoir toute la latitude qu'on veut, en fait. Puisque Roche-Oval est un sous-projet, ou enfin un projet parallèle avec un autre groupe qui s'appelle Ravachol. Je sais pas si tu connais Ravachol, célèbre anarchiste français du 19e siècle. Moitié du 19e siècle, populaire pour avoir fait sauter vitrine et enfin un petit peu trop extrême peut-être notre Ravachol,
C'est comme ambigu si c'est juste le personnage.
Ouais, exactement.
D'accord. Donc c'est par rapport à cette image, mais déjà on va en revenir vu que vous avez dit que vous étiez un duo. On va préciser peut-être de musique. Vous avez parlé de quel style de musique déjà?
Le style il est vraiment absolument pas défini, puis c'est peut-être un peu ça le but. Mais je veux dire, on peut définir le style en fait dans le sens que dans la musique, dans les instruments qu'on a en fait, c'est des instruments électroniques. Fait que je veux dire, c'est ça.
Essentiellement, oui. Roche-Oval, ça voulait le côté plus électronique de Ravachol.
Ravachol, c'est plus
instrumental.
Là, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, donc on a vu qu'il y avait un xylophone, quoi.
Le vibraphone. Ça c'est les invités en fait.
Ça c'était les invités.
Ils sont en train de jouer en fait. Voilà. Les deux autres.
Et vous deux, on vous a vu avec sampleur et puis table de mixage entre autres.
C'est ça.
Et puis ordinateur, donc voilà. Est-ce que par rapport à ce genre de pratique, vous avez l'habitude de jouer dans ce genre d'événement?
Comme ça, à l'extérieur, c'était pas la première fois, je dirais. Mais sinon, on avait fait un autre événement avec Terry Steele. Qui était au musée du Fiermonde. Puis c'était un 5 à 7, c'était moins un spectacle, en fait. Ça, c'était plus, on mettait plus d'ambiance que...
On n'était pas sur une scène.
Exactement, on était dans le public.
Dans les gens, puis il y avait des haut-parleurs un peu partout. Puis...
D'accord. Et là, justement, par rapport à l'implantation dans l'extérieur, etc., et par rapport au style de musique, parce qu'on peut appeler ça musique électronique, noise, expérimentale.
Ça, c'est tout. Tous
ces qualificatifs fonctionnent.
C'est beau ça.
On peut tout dire.
Musique à machine, etc. Et justement, par rapport à ce genre de grande famille, on va dire, qui a plusieurs paternités différentes, le fait d'être dans un espace public comme ça et d'investir à nouveau l'urbain avec cette musique-là. Est-ce que ça vous intéressait ou c'était plus on a l'occasion juste de pouvoir jouer, donc on en profite? Hein.
Non, moi, personnellement, je trouve que c'est super intéressant.
Moi, je trouve que c'est très rare ou même jamais qu'on entend... même des shows extérieurs ou... c'est même rare qu'on entend cette musique-là, point. Fait que là, qu'on puisse...
Le diffuser à l'extérieur ou ça.
Faire jouer ça dans la rue, puis qu'il y avait du monde qui passait, puis c'est quoi ça.
Je considère que c'est une sorte de démocratisation de
la musique, ouais.
De ce genre de musique. Notre but, c'est pour. On est là pour l'avancement vers l'avant.
Vous quittez les caves de la musique underground.
Exactement, on quitte nos sous-sols. Nous émergeons des profondeurs de la terre. Mutants qui sortent.
Est-ce que par rapport justement encore, on va continuer un peu au niveau de cet ensemble-là, vous pourriez juste, vu que moi c'est on va dire un domaine que je connais un petit peu, mais au moins vous pourriez me décrire juste précisément, sans forcément parler des marques, mais à la fois ça a parfois un rapport avec les marques, au moins des outils ou des instruments de musique que vous utilisez. Parce que je sais que toi tu as un tuner.
Donc... Ben moi j'ai toutes sortes de machines. Là, aujourd'hui, j'avais une pédale de distorsion, une pédale de délai, j'avais une espèce de pédale, une génératrice de bruit vraiment, donc quoi qu'on peut vraiment, comme vraiment définir le bruit qu'on veut générer. Il y a un échantillonneur, je peux faire un séquenceur en même temps, j'avais une petite console pour entrer tout ça là-dedans, un micro, c'est ça. Puis je mélangeais un peu tout, c'est comme un gros instrument.
Moi, de mon côté, j'utilise un ordinateur avec tout ce qu'il peut y avoir dedans, en fait.
Donc système donc, de sampler,
générateur de son. Ouais, exactement, un synthétiseur. Ça donne toutes les possibilités imaginables en fait. Là. Mais en gros, c'est l'échantillonnage, puis du traitement en temps réel aussi, parce qu'en gros, David rentre dans ma carte de son.
C'est ça. Si.
Donc il y a un échange sonore ouais, entre
ça, il
vous
peut me traiter, moi, qu'est-ce que j'envoie qui est déjà traité. Donc, ça.
D'accord. Dans le meilleur des mondes, moi ce que je voudrais, c'est que David puisse ensuite me retraiter moi aussi, mais on n'en est pas là en fait encore.
Mais c'est
mais
ça, mais ça
le problème, c'est aussi que c'est.
De s'échanger presque à l'infini. Dans
ce qui est dur là-dedans, c'est qu'on finit par plus savoir qui fait quoi. Mm-hmm. C'est ça le problème aussi.
Et dans le qui fait quoi, justement, vous avez parlé que votre projet ou que votre groupe était ouvert à d'autres. C'est sous quelle forme que vous envisagez ces rencontres?
Ben, toutes sortes de formes. Ben, ça, c'était un exemple. Comme dans le but d'un événement, là, des fois, on peut faire ça comme ça. On avait fait un autre spectacle
à l'Écomusée.
Il y avait comme un autre groupe qui était invité, puis on jouait ensemble avec eux autres. C'est ça, là, de collaborer avec du monde dont
François Zayden.
Et nous avons dans le public quelqu'un qui lève le bras, justement. De joie de participation avec vous, apparemment,
c'est
donc ça,
ça
va.
Ça.
Et ça, vous considérez que ça fait vraiment partie du projet ou est-ce que c'est un à côté?
Ben, ça fait partie du projet dans le sens que. Ben, c'est ça. C'était, au départ, c'était un projet que ça soit quand même assez ouvert, mais c'est sûr qu'il y a des trucs qu'on préférait faire juste les deux. Il y a des projets qu'on a des idées qu'on veut faire juste les deux, mais c'est vraiment intéressant aussi de jouer avec plusieurs personnes. Il y a une espèce de base fixe autour desquelles il y a des gens qui gravitent. Ça peut être les mêmes invités qui reviennent. Mais c'est ça.
John Cage avait une certaine critique au niveau du jazz et de la musique expérimentale et de l'improvisation. Qu'est-ce que vous pourriez justement amener j'aimerais bien qu'on discute avec ça par rapport à la musique expérimentale et la base d'improvisation. Comment est-ce que vous voyez vous-même votre groupe, à l'intérieur de ce groupe, vous deux, et ensuite ceux qui viennent incorporer le groupe?
Question.
Ouais, tu veux que je la décortique?
Si tu veux, ouais.
Par rapport à la critique, justement, de l'expérimentation ou de l'improvisation,
ouais.
Qui trouvait qu'il n'y avait pas d'improvisation, que c'était le rejeu d'un apprentissage. Est-ce que vous êtes dans un mode de connaissance d'une pratique que vous remodulez et qu'est-ce qui fait qu'elle est transformée, dite improvisation? Ou est-ce que c'est presque une partition mentale que vous avez?
C'est beaucoup plus d'improvisation qu'une partition mentale.
Oui, c'est ça.
Cette fois-ci, en fait, il n'y avait pratiquement aucune structure préétablie.
Non, c'est ça. Il y avait des idées. Il y avait...
Des sons aussi qui sont là de base.
Des sons qu'on avait dit, on va utiliser. Puis même des fois avant, on se disait, bon, on va faire... C'est vraiment des termes vagues. C'est bon, OK, on va commencer plus tranquillement. Des choses comme ça. Mais non, c'est vraiment... Il y avait une chose qui était écrite. Puis encore là, c'est très vague,
c'est juste qu'on a juste les outils en fait.
C'était une partition.
Il y a ça aussi, ouais, c'est vrai.
C'était une partition qui avait été faite, c'est par qui?
C'est l'organisme, enfin la compagnie, si on veut, elle s'appelle Audiotopie. Ceux qui font donc les. Ils font faire des partitions par des gens qui font des marches. Ils organisent des marches en ville. Puis les gens font une notation graphique de ce qu'ils ont entendu.
C'est ça.
Puis nous, ensuite, on a réinterprété ça.
C'est ça.
De façon improvisée, puisqu'on n'a pas, carrément établi des règles, puis dit à tel temps, et tel type signe, tel signe veut dire tel son. Ou... C'était encore très ouvert, mais je suis bien heureux d'avoir vu que l'auteur de la partition a reconnu sa partition au travers de la musique. Donc, c'était une réussite.
C'est déjà bon signe, mais tu sais, c'est ça. Sur ça, on se disait, il y en avait un qui décidait. Quand on va être rendu à ce point-là dans la partition, on se fait signe. Puis là, comme ça, on peut garder une espèce de continuité.
D'ailleurs, voilà l'auteur.
Donc voilà
l'auteur de la partition. La partition. Pas l'auteur, mais l'organisateur de la partition. On devrait dire.
Et justement, pour la deuxième phase de la question, vu qu'elle était en deux volets, est-ce que le fait d'incorporer de nouvelles personnes qui viennent jouer, c'est pour vous un moyen de modifier votre façon de jouer et donc quelque part de modifier votre partition si elle avait été mentale.
Ouais.
Ou alors justement de voir comment votre partition, ne pas la bouger, mais comment elle se confronte par rapport à un autre mode de jeu.
Dans le sens, s'il y a de l'adaptation par rapport à...
Voilà, si c'est de la confrontation, de l'adaptation, du mélange, de l'invitation, ouais. Et donc l'autre musicien doit se conformer à votre façon de jouer.
Non, on n'est pas très conformiste quand même, je dirais. C'est assez, on laisse les gens faire. Le but, c'est de voir ce que le mélange va donner, en fait.
Ben, en fait, dans le fond, ce concept d'improvisation, tu sais, là, c'était vraiment, il y avait, bon, à la fin, c'était vraiment une improvisation libre, là, totale. Il y avait vraiment, on n'avait rien dit, on s'est juste mis pour le jouer. Donc, dans ce contexte-là, on peut pas vraiment imposer quoi que ce soit, en fait. Le percussionniste, il est là, il va jouer, on peut pas lui dire de faire quoi que ce soit, c'est lui qui décide, là. C'est vraiment l'improvisation.
À la limite, on aurait pu décider de choix d'instrumental, en fait.
Oui, c'est ça, ça aurait pu être la contrainte, en fait.
Ça aurait pu être ça, mais dans le cas présent, il n'y avait aucune contrainte, en fait.
D'accord.
Eux, ils sont arrivés avec leurs instruments, nous, de notre côté, on avait notre truc, puis... On a mis ça ensemble, voir ce que ça allait donner, puis...
C'est vraiment...
expérimental, je pense que c'est le terme définit bien.
En même temps, c'est comme une espèce de... T'sais, c'est assez intéressant, à la limite, de regarder ça, à la limite, bon, il y en a qui prennent plus de place, moins de place, comment on interagit ensemble, tout ça. Puis le fait, le percussionniste, on n'avait jamais joué avec lui encore, c'est la première fois qu'on jouait avec lui.
Ouais.
Ça, c'est vraiment intéressant, tu sais, il y a comme vraiment des... Tu sais, c'est vraiment comme une grosse communication qui se fait. Puis c'est de voir comment les membres dans le groupe réagissent entre eux, puis
ouais.
Ça crée quelque chose comme ça.
Il y a toute la notion d'écoute aussi au travers de l'improvisation qui est super importante. En général, les gens pensent à l'improvisation, puis c'est let's go, tout le monde fait ce qu'il veut, puis... C'est un peu une vision rétrograde de l'improvisation, je pourrais dire, mais...
Non, c'était plus pour avoir des définitions multiples, justement, de votre art.
Oh, ouais.
On puisse avoir après différents imaginaires au niveau de ce que peut être l'improvisation. Mm-hmm.
En fait, c'est bien dur à définir, mais...
Non, ouais, je cherche pas une définition, mais là, c'est bien au moins d'avoir ça et tout. Et là, est-ce que vous allez rejouer ensuite ou c'était les
c'est
derniers
tout.
Morceaux?
C'est tout.
Oui, c'est tout, ouais.
Le concept aussi, c'était qu'on commence les deux tout seul. Donc, Roche Vert, on commence... Ah ben, on commençait tout seul.
Il y avait Marco aussi, je sais pas si t'as vu le gars qui faisait du slam aussi, qui était avec nous.
C'est ça, il y avait un slammer au départ. Début. Lui, on l'avait invité pour qu'il vienne lire ses textes. Finalement, ça a été pas mal intéressant.
Ah oui, ça se pouvait marcher. En fait, on avait essayé deux fois. Deux fois, on a essayé avec lui. Puis, moi aussi, je suis vraiment heureux du résultat. Puis, je pense que le côté, justement, slam permet d'ouvrir un peu le côté obscur et noise. Parce que, justement, les gens sont capables de. Moi, je dis pas que ce qu'on fait est trop obscur pour que les gens puissent l'écouter, mais je veux dire. C'est dur pour quelqu'un qui écoute ça. Il peut écouter ça en faisant manger. Ou, je pourrais, ou David aussi, mais.
Moi aussi, ça m'ajoute. Moi, je l'écoute
n'importe. Mais en règle générale, les gens.
Mais il y a beaucoup de gens, bon, quand même.
Pas besoin d'avoir un rythme, une mélodie, quelque chose à se rattacher, avoir. Ou ne serait-ce qu'une voix.
C'est ça, un repère dans le fond.
Un élément, oui, un élément qui leur permet de.
Là, si on donne quelqu'un qui lit un texte, mais là, il y a les.
Le repère est clair, oui.
Il y a les mots, puis à la limite, nous autres, ça fait passer, tu sais, notre ambiance musicale, notre musique, ça l'a fait passer. Puis là, les gens peuvent se rattacher au texte, mais ils peuvent, en même temps, ils peuvent s'intéresser à la trame qu'on fait. C'est ça, mais c'est comme, peut-être que si ça aurait été tout seul sans la voix, il aurait pas été aussi ouvert, à la limite.
Est-ce que, par rapport à l'ensemble de vos pratiques, quelles sont... Et les sources musicales qui vous inspirent, quoi musicales, les espaces hein, d'inspiration, et quels sont pour vous les espaces idéaux, on va dire, ou l'espace idéal de diffusion?
L'espace idéal de diffusion, C'est une bonne question, hein, quand même. J'en vois.
Je sais pas s'il y en a.
Est-ce qu'il y en a un réellement, en fait?
C'est ça.
C'est ma question. Mais je répondrai par une question.
Il y en a-t-il?
Mais ici, je pense que c'est quand même vraiment intéressant. Parce que justement, le côté intéressant de la chose aussi, c'est qu'il n'y a pas juste des gens qui sont rattachés au milieu ou à la scène en question. Il y a plein de gens qui connaissent aucunement sans doute le noise ou les trucs comme ça. Donc, ça les ouvre, en fait. Ça permet de démocratiser, je dirais, cette musique un peu. Malgré qu'on est. On se fait une espèce d'underground populaire, ça reste quand même un peu. C'est pas élitiste, mais. si je compare, disons, à l'électroacoustique ou des trucs comme ça, qui sont assez élitistes, il y a peu de gens, puis c'est des petits milieux fermés. Dans le côté de la musique noise, moi aussi dans un petit milieu fermé, mais sans le côté élitiste, je dirais, mais c'est tout en fait. Mais c'est le même truc en bout de ligne.
Ça d'ailleurs, c'est quand même récurrent là, dans plusieurs, même quasiment dans tous les styles de musique, il y a tout le temps, finit presque tout le temps par avoir un petit élitiste. Ben, surtout pour les gens comme ça qui sont pas.
Facilement accessibles, on pourrait dire.
C'est ça, ouais, qui sont pas facilement accessibles. Il y a souvent, tu sais, un petit peu des élites là, qui se font.
Ou juste des scènes ou des groupes, on pourrait dire, hein, seulement. Là, des...
Non, mais tu sais, par rapport à l'électroacoustique, on disait.
Ouais, ben, on parle d'élite parce que ça a été institutionnalisé, mais en fait.
C'est ça,
ça pourrait être aussi des gens qui font.
Non, on sait pas, tu sais, peut-être un jour,
c'est la noise. Ouais, mais c'est un peu la même chose, en fait.
C'est ça, c'est un peu la même affaire, c'est ça, c'est vrai.
C'est deux trucs, mais vus d'une manière différente, un peu. Il y en a un qui est institutionnalisé, l'autre l'est pas du tout, en fait.
C'est ça, exactement. Mais.
C'est comme le rock, on pourrait dire le rock ou le punk, à la limite. Il y en a un qui. Le rock, c'est quasiment une institution, on pourrait dire, en soi. Puis... La musique punk, non, pas vraiment. C'est un truc underground que les gens. Qui c'est des petits milieux, mais. Mais les deux ont. Les deux peuvent se joindre très bien, en fait. Ouais.
Donc, ce serait pas forcément dans ce genre de lieu-là, mais investir quelques lieux, que ce soit justement.
Ça moi, je pense que ça, peu importe le lieu, ça.
Ouais. Ben, mais en fait, comme il dit, que c'est vrai que c'est intéressant de. Ça serait intéressant, en fait, le lieu qui serait le plus intéressant, ça serait un endroit où que les gens s'attendent pas à ça ou. T'sais,
c'est ça le plus hétéroclite.
C'est ça, le plus hétéroclite possible, que ça ait touché le plus de gens possible, parce qu'il y a des gens qui. C'est juste simplement parce qu'ils connaissent pas ça, ils n'ont jamais entendu ça. Là, ils vont arriver, et puis il y en a beaucoup de gens ouverts là, qui sont prêts à.
Oh oui, on a tendance à voir les gens plus fermés qu'ils sont souvent.
C'est ça, exactement, c'est vrai, parce qu'on est. On est souvent.
Toujours l'image de la musique populaire, les gens
c'est écoutent, ça, puis on sent dans notre coin, puis on veut pas savoir, parce qu'on est sûr que ça les intéresse pas, puis. Puis à la limite, des fois, on a même peur de les agresser.
Les brusquer, les déranger.
Ouais, ou déranger, tout ça. Mais tu sais, dans ce contexte-là, on n'impose rien. Là, c'est là, si vous voulez venir écouter, vous venez écouter. Puis c'est ça qui est intéressant. C'est genre, la plupart des. Il y a des gens qui passaient, qui habitent ici, on ne sait pas, ils ne savent même pas ce qui se passe, ils viennent écouter. Puis ça, probablement qu'ils n'ont jamais entendu ça, tu sais. Des choses comme ça. Puis là, ils prennent la peine de prendre deux secondes d'écouter. Ça, c'est vraiment. Moi, je pense que c'est quand même un contexte assez idéal.
Ouais.
Parce que ces gens-là, on peut pas aller les toucher d'autre manière. On peut pas aller cogner chez eux et demander si on peut jouer dans leur salon ou quoi que, on sait jamais. Mais...
Peut-être que tes voisins, sans que tu aies claqué à leur porte, réussissent à
entendre. Ah, peut-être qu'ils entendent quelques bribes. Là. Ouais, peut-être.
Et donc, sinon, vos sources d'inspiration, ou qu'est-ce qui vous nourrit
en quelque sorte? Mélange de. D'électroacoustique, d'électronica, mais aussi bruitisme.
Ouais, moi j'aime beaucoup, on dit noise, mais bon, je préfère dire le bruitisme, mais c'est parce que ça a été utilisé avant aussi, mais bon, on peut réutiliser le terme bruitisme,
le terme bruitisme est aussi moins, pas péjoratif, mais moins négatif, peut-être un petit peu, je sais pas, c'est la même chose en fait.
C'est la même affaire, c'est juste...
Mais on dirait que ça, moi, en tout cas, à mon oreille, à moi, ça sonne moins... Noise, ça sonne quelque chose de vraiment brutal.
Ouais, c'est ça, comme
les termes sont apparus à deux époques différentes.
Ouais, aussi, il y a quoi à dire.
T'as 1913, ouais, c'est pour ça, le brutisme.
C'est ça. Ouais, exactement.
C'est ça, brutisme, mais c'est ça, moi je dis qu'on peut le réutiliser en tant qu'en parler du noise. Mais bon, moi j'aime beaucoup le brutisme. Ça fait pas si longtemps que je connais ça. Mais moi je dirais que ça, c'est une grosse inspiration. Tout ce qui est. Moi, j'aime beaucoup les feedbacks, que ça soit des feedbacks, beaucoup, tous les sons, la distorsion en général.
La saturation.
Oui. C'est ça, la saturation, oui. Dans toutes sortes de. Tu sais, un petit peu la perte de contrôle,
Je dirais que c'est aussi un peu inspiré d'une espèce de vision apocalyptique, un peu négative et pessimiste d'un futur.
Ouais, peut-être.
Ça se rapproche de plus en plus.
Ouais, on peut même dire que l'inspiration.
Ça pousse la sauce un peu, là, mais ouais. Ça. Puis je pense que la musique a quand même une certaine relation avec la sociologie.
Ouais, ouais, ben on pourrait dire que dans les temps qu'on. Qu'est-ce qui nous inspire? Ben, entre autres, tous les temps qu'on vit en ce moment.
Qu'est-ce qu'on vit tout le monde autour de nous, en fait, même la ville comme telle. Peut-être que si j'habitais quelque part en campagne, je serais peut-être
sur la même musique douce. Non, mais c'est
peut-être
vrai.
Peut-être pas non plus, en fait. C'est peut-être un peu poussé, mais.
Non, mais c'est certain qu'il y a
quand
influence.
Même une influence, je pense, malgré tout.
Il y a sûrement une part de frustration. En fait, il y en a une part de frustration ou de plein d'affaires qui est canalisée là-dedans. Puis même je pense que ça peut être. T'sais, ces courants-là. Peut-être d'improvisation et tout ça sont apparus dans des contextes un peu comme ça. Comme si on regarde même le free jazz, dans quel contexte c'est apparu, des trucs comme ça.
Ça fait partie des formes conscientes et inconscientes. Quand je vous posais les questions plutôt conscientes, justement, okay. À l'explication sociologique.
Ouais, de façon consciente.
Donc, je pense que vous avez répondu.
De façon consciente, ben, c'est ça.
Moi, en fait, c'est mes premières influences sont la musique punk et les trucs. Le punk des années 80.
Si moi je remonte à loin, moi, ça serait plus le métal.
D'accord, ok. C'est ça. Oh, super. Donc les écouteurs ou les écoutants de métal et de punk peuvent un jour faire du noise.
Ce n'est pas
les inviter à ça. Et ben merci beaucoup pour votre passage. Hein.
C'est un plaisir.
Merci.
Et puis
merci.
À bientôt, peut-être sur Radio Multiple Éphémère, quelque chose d'autre. Bonne journée à vous.
Merci. Bonne journée. Merci.